France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, comment éviter les arnaques en ligne ou sur nos téléphones? Comment les identifier à coup sûr? Comment réagir? Qu'il s'agisse d'arnaques aux faux conseillers bancaires ou d'hameçonnage, de phishing en tout genre? Pourquoi nos systèmes de sécurité sont-ils si défaillants alors que la cybermalveillance ne cesse d'augmenter? Et nous verrons également sur quel ressort psychologique jouent les arnaqueurs pour nous faire baisser la garde. Nous attendons vos témoignages et vos questions sur les arnaques en ligne au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Bonjour Olivier Blasi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de cybersécurité à l'École Polytechnique, nouveau directeur scientifique du Centre interdisciplinaire d'études sur la défense et la sécurité. Vos recherches portent notamment sur l'identité numérique, la protection des communications et les algorithmes de chiffrement post-quantique. C'est quoi ça, les algorithmes de chiffrement post-quantique de façon simplifiée?
C'est la réponse mathématique au problème de comment se prémunir face à un ordinateur quantique. Et c'est vraiment du David contre Goliath. Donc c'est comment, avec votre ordinateur de tous les jours, on va pouvoir résister à un ordinateur quantique malgré tout.
Bonjour Marwan Warab.
Bonjour.
Vous publiez Hacker chez First Edition. Vous avez escroqué des centaines de personnes et désormais vous êtes devenu honnête. Vous traquez les arnaqueurs. Parmi vos faits d'armes, avoir retrouvé les arnaqueurs au faux Brad Pitt, et vous avez fondé la société Find My Scammer, une société qui aide les victimes d'escroqueries numériques à retrouver les délinquants. Alors, nous reviendrons tout à l'heure, Marwan Warab, sur votre parcours. J'aimerais soumettre à votre sagacité quelques chiffres issus du baromètre sur la perception cyber des Français, sur la perception sur la cybermalveillance, une étude réalisée par Ipsos pour cyber malveillance.gouv.fr. 58% des Français estiment être suffisamment informés sur les risques liés à l'utilisation d'Internet. Un tiers considère leur niveau de connaissance comme bon ou très bon. Les Françaises et les Français sont de plus en plus familiarisés avec des termes comme piratage, hameçonnage, phishing. Et 68% des Français déclarent faire systématiquement des vérifications avant un achat en ligne. 55% affirment même utiliser des mots de passe complets et unique. Votre regard de professeur en cybersécurité à l'École Polytechnique, Olivier Blasi, c'est optimiste ou pas?
C'est vraiment très optimiste. C'est-à-dire, c'est très bien de connaître les termes et d'être familiarisé au fait que ça existe, mais ensuite, il faut savoir réagir. Et là, même moi, j'estime ne pas l'être suffisamment.
Même vous?
Non, enfin, on peut toujours se faire avoir, toujours être fatigué, avoir un moment d'inattention, qu'on nous présente une arnaque suffisamment bien ficelée parce qu'on va essayer de nous stresser ou au contraire de nous amadouer, et on va se faire avoir. Donc le but, c'est plutôt de savoir les détecter au maximum et de savoir minimiser les dégâts.
Marwan Warab?
Tout à fait, c'est un point de vue qui est un petit peu optimiste. Et il faut savoir que, on est toujours suffisamment pas préparé à ce genre d'avancée technologique. Là, clairement, on se retrouve dans un cas dans lequel l'erreur, elle n'est pas du tout technologique, elle est humaine.
Elle est humaine. Et même vous, vous l'expliquez dans votre livre Hacker, vous vous êtes fait avoir, vous l'escroc, vous êtes fait avoir par une dénommée Asma sur Internet.
Exactement.
Vous vous êtes fait avoir comme un bleu.
Comme
même
un bleu,
vous.
Exactement. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, c'est vraiment le facteur humain qui représente la plus grande faiblesse de l'être humain.
Olivier Blasi?
Ah, je suis tout à fait d'accord. Ça ne va pas être la machine le problème, ça va être l'humain derrière.
Alors, selon une étude récente du Crédoc, 4 internautes sur 10 ont été victimes d'une arnaque en ligne au cours des 12 derniers mois, et près des 3 quarts des internautes ont été exposés à des arnaques et fraudes en ligne au cours de l'année écoulée. Et je cite donc cette étude du Crédoc. Le ministère de l'Intérieur a recensé 348 000 atteintes numériques au cours de l'année 2024, soit une augmentation de 74% par rapport à 2019. Et c'est vrai que cette hausse s'inscrit dans un contexte où le numérique occupe une place centrale dans la vie quotidienne en termes de communication, de travail, d'information, de consommation ou dit administration. La cybercriminalité qui s'est industrialisée notamment grâce au déploiement fulgurant de l'intelligence artificielle qui permet de démultiplier les attaques et les rendre moins discernables aux yeux des internautes, Olivier Blasi.
Oui, enfin, on a vu une démocratisation de ces attaques. Et effectivement, les chiffres sont là pour prouver que c'est bien, que ça arrive dans les faits. Mais en fait, c'est aussi une bonne chose qu'on arrive à se rendre compte que ces attaques aient lieu, qu'elles ne passent pas inaperçues. Et effectivement, la technologie est vraiment va dans les deux sens, et on se rend compte qu'elle aide énormément les attaquants, surtout à faire du travail de masse pour contacter un maximum de personnes à bas coût. Et du côté humain, on ne s'est pas upgradé pour faire un humain 2.0 capable de réagir et détecter ces menaces plus rapidement.
Marwan Louarab,
il a complètement raison, c'est il m'ôte les mots de la bouche, mais ce que disait Olivier est très juste, c'est que à l'heure actuelle, le seul facteur qui fait que les gens tombent dans ce genre d'arnaque, c'est l'erreur humaine. Et l'erreur humaine, elle est souvent provoquée volontairement par l'escroc.
Donc, exemple.
Un exemple, un escroc vous appelle en se faisant passer pour votre banque, il s'est renseigné en amont via une fuite de données sur vous, il a eu votre nom, votre prénom et votre numéro de carte bancaire, et ben il peut très bien vous appeler en se faisant passer pour votre banque et en vous faisant croire qu'une somme d'argent est en train d'être virée vers l'étranger, par exemple.
Toutes ces arnaques en ligne, ces arnaques téléphoniques, elles se sont industrialisées, Marwan Ouarab ?
Elles se sont industrialisées.
Ce ne sont pas des individus isolés qui agissent, c'est vraiment des entreprises de cybercriminalité.
Tout à fait, c'est des groupes de cybercriminels qu'on pourrait assimiler à des entreprises. Donc, ils ont une organisation avec une hiérarchie. Ils sont nombreux et très bien organisés. C'est-à-dire qu'ils ont des locaux dans lesquels il y a des gens qui sont au téléphone, d'autres gens qui vont faire du développement sur le site internet ou sur les liens de phishing qu'ils envoient.
Et phishing, c'est hameçonnage. Hein.
Phishing, c'est hameçonnage. Ouais. C'est le genre de lien qu'on envoie. Vous savez, le petit SMS que vous recevez, votre prix Netflix a augmenté ou alors le colis privé a été posé dans votre boîte à lettres, etc. Et ils vous envoient toujours un petit lien qui sert à recueillir des informations sur vous à votre insu. Et donc, ce lien-là, va usurper toujours l'identité d'un site fiable comme Netflix, votre banque ou autre pour vous inciter à donner de vous-même vos informations et que derrière ils puissent avoir les bons outils pour les retourner contre vous. Donc en gagnant votre confiance comme ça, ils s'en prennent à vous.
Olivier Blasi.
C'est tout à fait ça. Et cette industrialisation, en fait, a permis aux cybercriminels de s'organiser par compétences. Donc, il va vraiment y avoir la personne qui va être dédiée aux appels téléphoniques pour parler. Donc, ça, c'est une personne qui a besoin de skills sociaux. Il y a des personnes.
Skills, ça veut dire.
De compétences sociales, pardon, excusez-moi. Des personnes qui vont plutôt avoir des compétences techniques. Donc, soit pour faire de la collecte de données en masse, regarder des fuites qui ont déjà eu lieu, pour faire des liens de phishing, de hameçonnage ciblé, pour piéger les gens. Et donc, en fait, ça va permettre à des profils différents d'interagir ensemble. Pour, hélas, accomplir des fins néfastes beaucoup plus facilement.
Alors, à mon grand étonnement, préparant cette émission, ce sont les moins de 40 ans qui, selon cette même étude du Crédoc, sont plus fréquemment victimes de cyberattaques, et plus encore les moins de 25 ans. Pourquoi ? Parce que ce sont des publics qui sont les plus usagers des écrans et qui multiplient les usages. Olivier Blasi ?
Alors, ce sont des personnes qui sont ultra connectées, donc elles sont constamment sur un écran, que ce soit leur téléphone, leur ordinateur, tout mélangé. Et aussi, ce sont des personnes qui sont sursollicitées, c'est-à-dire on est habitué à être abreuvé de mails et à devoir les traiter en moins d'une minute. Et donc, on n'a plus le temps de réfléchir à est-ce que ça fait sens ou non, et on va juste prendre le mail, cliquer parce qu'on nous dit de cliquer et passer à la suite.
Marwan Ouarab.
Tout à fait. Il y a aussi le fait que c'est une génération qui a grandi avec ces réseaux sociaux-là et puis l'arrivée d'Internet. Et donc forcément, c'est une génération qui a traîné sur des sites plus ou moins fiables. Donc on a tous laissé un jour ou l'autre, en allant faire nos courses, je vous dis une bêtise, notre adresse email pour participer à un jeu concours. Eh bien, ce genre d'action-là nous expose, et expose nos données personnelles à fuiter. Et en général, lorsqu'on a connu Internet depuis tout petit et qu'on grandit, nos données personnelles sont beaucoup plus facilement retrouvables et on est beaucoup plus exposé que quelqu'un qui n'a pas grandi avec ça.
Olivier Blasi.
Ah, mais tout à fait. Enfin, comme on est hyper connecté depuis notre jeunesse, on s'est inscrit sur plein de sites. Et un jour ou l'autre, un site a sa base de données qui va fuiter. Et donc, nos données qu'on a rentrées il y a 10, 15 ans vont fuiter.
Pourquoi les arnaques les plus efficaces, Olivier Blasi, ne sont pas forcément les plus complexes techniquement ?
On en revient au problème de le maillon faible dans la chaîne, c'est l'humain. C'est-à-dire, le côté technique, ça va être la collecte d'informations en amont. Mais ça, en fait, ça peut se faire sur du temps long, on peut réexploiter du travail d'autres attaquants. Et la partie critique, ça va être le dialogue avec l'humain, donc avec la victime. Et là, c'est pas la technique, c'est vraiment tes compétences. Est-ce qu'on est capable de discuter, de mener une conversation pour faire en sorte que la victime arrive et nous dévoile les informations qu'elle ne devait pas faire.
Marwan Ouarab.
C'est très technique, hein, ce dont parle Olivier. C'est que les escrocs vont parfois créer une pièce de théâtre au téléphone pour vous faire croire croire.
De la technique relationnelle.
C'est de la technique relationnelle. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Ouais. Et cette technique-là, elle va consister à, par exemple, mettre un bruit de bébé qui pleure, à se faire passer pour une maman qui est un petit peu pressée pour pouvoir.
À ce point-là ?
À ce point-là, pour pouvoir récupérer des informations auprès d'administrations qui sont soumises à la loi RGPD. La loi RGPD, c'est la loi qui empêche la divulgation des données personnelles de tout le monde, de tout à chacun, à n'importe qui. Et donc, si j'appelle la banque et que je demande tout de suite des informations sur vous, Ali, la banque va me dire bah, écoutez, non, vous n'êtes pas Ali Rebéi, c'est impossible. Or, si je me fais passer pour votre femme et que j'appelle la banque avec un bébé qui pleure derrière, il y a beaucoup plus de chances que l'être humain au téléphone veuille nous rendre service et soit touché par le côté affect de l'appel que si on vous appelle de but en blanc vous demandant l'information.
Yves Blasi.
C'est tout à fait ça. On peut mettre en place des procédures pour essayer de sécuriser au maximum les conversations et dire qu'un conseiller doit demander ça, ça et ça. Mais dans le cas où il y a un bébé qui pleure derrière, si le conseiller dit non, bah, dans la moitié des cas, en fait, il va dire non à un vrai humain qui fait une vraie demande légitime et il va s'en vouloir et lui, sa conscience ne va pas aller. Et donc, comme on demande aux personnes de faire des arbitrages en permanence, là, l'humain va prendre le pas et va se dire non, mais en fait, c'est probablement mon client ou une demande légitime et je vais le faire. Et on peut vouloir renforcer la sécurité au maximum et dire il faut jamais le faire, mais à ce compte-là, en fait, on va trouver que les administrations sont de plus en plus rigides et ne nous comprennent pas. Et donc, en fait, c'est un équilibre à trouver.
Et ce sont des scénarios de plus en plus sophistiqués, Marwan Waram.
C'est des scénarios qui sont...
D'ailleurs, quand on lit votre livre, c'est vrai que vous avez arnaqué des personnes très différentes et en endossant à chaque fois des personnages, de véritables personnages. Par exemple, je déborde un peu du cadre du thème de l'émission, mais le pisciniste, par exemple.
Ça a été un de mes faits d'armes dont je ne suis pas très fier aujourd'hui, mais à l'époque, il m'est arrivé de vendre une piscine fantôme qui n'a jamais existé. Bah, oui, ça m'est arrivé.
Et alors comment, justement, pour essayer de comprendre comment ces cyberattaquants procèdent, comment vous êtes mis dans la peau d'un pisciniste pour vendre des
piscines ? C'est simplement qu'à l'époque, j'avais déjà compris que ce qui était accable en premier, c'était pas l'appareil, mais le cerveau de la personne. Mmh. Et donc, en arrivant avec une dégaine de pisciniste, donc j'arrivais avec, selon moi, ce à quoi devait ressembler un pisciniste, donc je mettais mon petit pantalon avec mon petit gilet sans manches, j'arrivais avec ma petite casquette, et donc voilà, bonjour, le gars avait mis une annonce sur Le Bon Coin, il cherchait tout simplement à se faire construire une piscine. Je suis allé le contacter, je suis allé faire un devis chez lui, j'ai pris les honoraires en avance et j'ai disparu.
Et donc ce scénario-là, il existe aussi donc quand les cybercriminels agissent avec, vous l'avez dit, la technique du bébé dans le bras ou plein d'autres scénarios qui sont possibles quasiment à l'infini.
On retrouve ce scénario par exemple notamment sur l'arnaque sentimentale, dans lequel on va reprendre l'exemple du faux Brad Pitt parce qu'elle est très connue, dans lequel quelqu'un va venir gagner votre confiance initialement. Donc la fausse mère de Brad Pitt a approché la victime Anne et donc a gagné sa confiance pendant plusieurs mois avant d'introduire Brad Pitt. Donc c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on va aller mettre une tenue et se faire passer pour un pisciniste, gagner la confiance de la personne en parlant en jargon technique, oula, les sous-bassements sont pas très bons, oula, le bassin va être plutôt prof, enfin, on sort vraiment un jargon de pisciniste, et à partir du moment où on sent que la personne est dedans, là, c'est en général le moment où il faut y aller.
Et Anne a perdu 830 000 euros.
Et Anne a perdu 830 000 euros, oui, tout à fait.
On va y revenir tout à l'heure. Alors, parmi les menaces les plus fréquentes, il y a le hameçonnage ou phishing. 60% des Français ont été confrontés à de l'hameçonnage au cours de ces 12 derniers mois, via un courriel ou un SMS. Pouvez-vous nous rappeler le principe du hameçonnage, cette technique frauduleuse pour obtenir des données personnelles en se faisant donc passer pour une entreprise, une institution, une administration qui a pignon sur rue?
Le hameçonnage, très simplement, ça va être l'action d'envoyer un lien piégé, c'est-à-dire que le lien va vous rediriger vers un site internet qui a été usurpé, ou du moins copié, sur lequel le seul objectif va être de parvenir à vous récupérer les données personnelles que vous allez y entrer. Donc l'escroc ou l'attaquant, du moins la personne malveillante, va créer un site internet qu'elle va vous envoyer en déguisant parfois la véritable adresse du lien. Donc c'est des liens qui sont, vous savez, raccourcis. Et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page qui vous demande d'entrer un certain nombre d'informations vous concernant. Parfois, c'est pour effectuer un paiement de quelques centimes. Le paiement n'est jamais débité, ou quand il l'est, bah, c'est très rare. Et ça donne simplement toutes les informations personnelles vous concernant à un attaquant, qui lui va se charger de laisser quelques jours passer, puis de vous rappeler en se faisant passer pour votre banque.
Et c'est vrai que le pirate va envoyer un mail qui reprend donc des éléments visuels caractéristiques d'une administration, d'une entreprise, avec un logo, une police de caractère semblable. Et donc, vous l'avez dit, ce mail va nous indiquer qu'il nous est reproché de ne pas avoir réglé une certaine somme d'argent, des factures, des impôts, factures d'électricité, et on vous ordonne de le faire le plus vite possible sous peine de pénalité, de retard, voire de saisine de la justice, ou alors on vous signale une erreur d'ordre financier en votre faveur. Et on vous invite donc à suivre des indications pour vous faire rembourser, Olivier Blasi.
Oui, le but de
ça, c'est la base du hameçonnage. Hein.
C'est vraiment la base du hameçonnage, mais le but, en fait, c'est de créer un sentiment chez la victime de devoir réagir rapidement.
Oui. Et d'urgence.
Et ce sentiment d'urgence, c'est fait pour court-circuiter tous les circuits de raisonnement, de se dire « là, il faut que je réponde » et pas se dire « c'est un piège ».
Alors, le hameçonnage par SMS est de plus en plus fréquent. Qu'est-ce qui fait l'efficacité du hameçonnage par SMS par rapport au hameçonnage par courriel ?
Le SMS, vous allez le lire partout. Si vous le lisez dans les transports en commun ou n'importe quoi, vous n'allez pas avoir de temps. Et donc, vous allez juste voir ça, juste voir une petite information, un lien bleu. Et vous n'allez pas avoir tous les outils que potentiellement vous pouvez avoir sur votre ordinateur pour lancer des alertes. Et donc, vous allez encore plus tomber dans le panneau. Ce côté, vous répondez en urgence sans être dans un setting pas familier, ça va être compliqué pour vous.
Et c'est plus difficile d'identifier les SMS frauduleux par rapport au courriel ?
Oui. Enfin, en tout cas, comme le format est plus petit, on a moins accès directement aux informations qui pourraient nous aider.
Parce que dans les courriels, il y a souvent des fautes d'orthographe, de syntaxe, qui peuvent éveiller les soupçons. La concision du SMS fait que peut-être la faute de syntaxe ou d'orthographe qui pourrait nous éveiller, qui pourrait nous alerter, ça passe peut-être un peu plus à l'as.
Alors ça peut passer plus inaperçu. Après, les fautes d'orthographe dans les courriels, il y avait toujours une dualité qui était aussi, ça permettait déjà de filtrer les victimes. Dans le sens où la personne qui allait cliquer sur le lien, malgré les fautes d'orthographe, en fait, on savait qu'elle était déjà piégeable plus facilement.
Et puis, on pourra peut-être, par SMS, Marwan Warab, trouver plus légitime qu'une entreprise, une institution, un organisme possède notre numéro. Et donc, on peut peut-être baisser la garde par rapport aux mails des fraudeurs que l'on peut plus facilement identifier, peut-être.
Oui, mais le cas échéant...
se dit, l'institution, l'entreprise a mon numéro, donc forcément... comme j'ai déjà laissé mon numéro à Netflix, à Prime Video, à Disney+, pour parler de plateforme, il est légitime qu'il puisse m'envoyer un SMS parce qu'il possède déjà mon numéro de téléphone.
Tout à fait, mais il faut savoir que Disney+, par exemple, ou Le Roi Merlin, ou Free, ou Netflix, pour ne pas tous les citer, ne vont jamais vous envoyer de SMS via un numéro de téléphone en 06 ou en 07. Et c'est bien souvent le cas lors de tentatives de phishing, c'est que les fraudeurs vous envoie un SMS via un numéro de portable. Et il faut toujours se dire, mais qui chez Netflix va prendre un portable et m'envoyer un SMS ? Ou alors, même s'il y a des machines qui existent, pourquoi est-ce qu'il serait passé par des numéros de portable et pas des numéros courts d'entreprise ?
Non, c'est tout à fait ça. C'est, si vous recevez un SMS d'une entreprise en 06 ou n'importe quoi, c'est à peu près à coup sûr une fraude. Mais par contre, ça ne veut pas dire le contraire. C'est, si vous recevez un SMS d'un numéro court qui prétend être de Netflix ou de n'importe quelle entreprise, ce n'est pas forcément vrai. Alors, les hackers peuvent mentir sur ce fait.
Comment se prémunir contre le hameçonnage par SMS ou par courriel ? Quels sont vos conseils de base ?
Il existe des outils qui permettent de vérifier les liens qu'on reçoit avant de cliquer dessus. Orange met en place justement des vérificateurs de liens pour faire attention à ce qu'on ne clique pas sur des liens vérolés ou plein de malware ou qui nous redirigent vers
malware.
Des pages. Malware, c'est un petit virus, si vous préférez, qu'on peut télécharger en cliquant sur un lien ou en téléchargeant une pièce jointe dans un mail.
Allez, dans un instant, on va s'intéresser aux arnaques, aux faux conseillers bancaires. On s'y intéresse juste après avoir écouté Jacques Higelin, Champagne, une chanson sortie en 1979, 10h24.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages. Que ce soit
de la mare aux oubliettes, venu du sphère obligatoire. Lutin, Luciole, feu follet, elfe, faune et farfadet, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme. Émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
Jacques Higelin interprétait Champagne.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment agir face aux arnaques numériques, hameçonnages en tout genre, arnaques aux faux conseillers bancaires, en compagnie du professeur en cyberattaque à l'École Polytechnique Olivier Blasi, et avec le hacker éthique qui fait un escroc du web, Marwan Warab. Et nous accueillons Bénédicte. Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour Ali.
Bienvenue. D'où appelez-vous Bénédicte ?
Merci. Pardon ?
D'où appelez-vous Bénédicte ?
J'appelle de la Vendée.
Alors, quelle est votre histoire, votre témoignage ?
Eh bien écoutez, j'ai malheureusement une mauvaise concordance des planètes parce que je vous écoute tous les jours et si je vous avais écouté hier, ça ne se serait pas arrivé parce que je me suis fait hameçonner hier. Donc voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, exactement ce que disait votre intervenant avant la chanson, c'est que j'ai reçu un SMS. Alors moi j'ai une entreprise, donc je suis pourtant très aguerrie, je reçois énormément de SMS et mails frauduleux, je fais très attention. Mais en fait, comme je reçois beaucoup de colis de fournisseurs et que j'en attends en ce moment, c'était un SMS d'un 07 en effet, mais par contre c'était soi-disant un livreur qui était passé et qui ne m'avait pas trouvé et il fallait refaire une livraison mondiale relais. Donc j'ai cliqué sur le lien. J'ai rempli, on me demandait de payer quelques centimes pour refaire la livraison, etc., ce que j'ai fait. Donc, première erreur, dans la foulée, je me suis dit que j'avais peut-être fait une bêtise, donc j'ai contrôlé mes comptes, mais comme il n'y avait pas de mouvement, tout allait bien. Et puis, en fait, la vraie fraude s'est passée en début d'après-midi, où j'étais appelée par un faux conseiller répression des fraudes du Crédit Mutuel, qui me disait qu'il y avait des mouvements suspects sur mon compte pour des bitcoins. Donc, comme je n'en étais pas l'auteur, je lui ai dit, bah oui, j'ai eu un SMS bizarre ce matin. Il m'a dit, bah ne cherchez pas, c'est ça, je vous prends en main. Et là, il m'a pris en main pendant une heure et demie.
Une heure et demie ?
Et là, voilà, j'ai fait un virement, etc.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant une heure et demie ? Qu'est-ce que vous racontez, ce faux conseiller du Crédit Mutuel ? Racontez-nous un petit peu.
Et bien alors, il m'a dit que, en fait, c'est là où, avec le recul, je me sens, je vous avoue, assez stupide parce que j'ai l'impression que c'était tellement gros et pourtant, je suis plutôt une personne aguerrie à tout ça, mais comme quoi, il y a une manipulation psychologique qui est très importante. Et en fait, il y a cette question d'urgence parce qu'il vous dit que bah, il y a des mouvements qui sont sur votre compte en ce moment, des soi-disant bitcoins. Donc, il a essayé de me faire faire un compte bitcoin. Je trouvais ça étrange. À un moment donné, je lui ai même dit, mais qu'est-ce qui me prouve que vous êtes du Crédit Mutuel ? Il m'a dit, bah, je vous ai envoyé un mail, madame, allez voir. En effet, il y avait un mail. Je lui ai fait confirmer son nom. Il m'a confirmé son nom, etc. Enfin, j'avais des petites suspicions, mais je me suis laissée driver. Comme ça ne se passait pas le truc du bitcoin, enfin, je ne vous dis pas tous les détails, on en a pour une heure, mais du coup, après, il m'a fait aller sur mon appli de banque. Il m'a fait créer un autre bénéficiaire parce qu'il fallait créer, je ne vous en dirai pas les termes, en fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé dans la banque ou je n'en sais rien, mais qui a des termes hyper techniques et en fait, qui vous drive pour faire un virement sécurisé sur un autre compte pour un peu intercepter les fraudeurs, on va dire, en résumé.
Et comment vous vous êtes aperçu, Bénédicte, qu'il s'agissait d'une arnaque aux faux conseillers bancaires ?
Eh bien, parce qu'en fait, à un moment donné, bon, il faisait sa petite affaire, et puis il me disait tout le temps, vous inquiétez pas, je reste avec vous, on va trouver des solutions. Et puis ça se passait pas comme il voulait, parce que je pense quand même, il y a des pare-feux au niveau des applis, tout ça, qui sont pas trop mal. Donc il a essayé de m'en faire faire un deuxième, ça se passait pas bien, enfin voilà, il a fait un autre truc. Et puis à un moment donné, ça a coupé. Alors il m'avait fait attention, ce qu'il faut faire attention, ma grosse erreur, c'est qu'il m'avait fait, il m'avait rappelé via WhatsApp. Donc ça, je sais, apparemment, les vraies banques ne font jamais ça. Donc, grosse erreur de ma part. Et donc, à un moment donné, le téléphone a coupé. Et là, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Personne ne me rappelle. J'ai essayé de rappeler, impossible de le joindre. Et là, c'est comme si je sortais d'un vortex où je me suis dit, bah, en fait, c'est ça l'arnaque. Donc là, direct, j'ai appelé ma vraie banque. J'ai fait opposition à la carte.
Très bon réflexe.
On a bloqué tous mes comptes. Alors on a bloqué tous mes mots de passe et puis j'ai rappelé mon agence, j'ai fait une déposition à la gendarmerie et voilà, là je suis en attente de voir, mais j'ai assez peu d'espoir pour mon virement. Donc,
on peut se permettre de vous demander, c'est un virement de quelle somme ?
3 000 euros.
Ce qui est étonnant avec Bénédicte, c'est qu'elle est aguerrie, c'est une chef d'entreprise et pourtant... comme tout le monde, elle est tombée dans le panneau, Marwan Ouarab.
Plusieurs points. Bonjour Bénédicte, je suis Marwan Ouarab, le fondateur de la société Find My Scammer. Alors j'ai plusieurs choses à vous demander. J'ai entendu que c'était très récent et tout frais. Donc est-ce que vous êtes allé déposer plainte, ça ? J'ai compris que oui, c'est ça ?
En fait, le mec, il m'a appelé à 14h30, il m'a fait faire le virement vers 15h30.
D'accord.
J'ai appelé la banque, j'ai fait opposition à ma carte 1h30 après.
Alors Bénédicte, il faut maintenant que vous alliez faire une procédure de rappel de fonds auprès de votre banque. Votre virement, vous l'avez fait.
C'est fait parce que j'ai rappelé mon agence et ils ont fait une procédure dans la foulée de rappel de fonds.
Est-ce que vous avez bien transmis votre dépôt de plainte à votre agence bancaire ?
Je l'ai transmis hier soir par mail, j'attends ce matin que mon conseiller me rappelle.
Alors, appelez votre banque pour confirmer qu'ils ont bien reçu votre dépôt de plainte, parce qu'en général, lorsqu'ils n'ont pas le dépôt de plainte, le rappel de fonds est demandé à la victime d'en face, enfin à l'escroc en face, et donc du coup, ils demandent l'avis à l'escroc avant de pouvoir vous rendre les fonds. Vous vous doutez bien que l'escroc, il ne va jamais, de son plein gré, vous rendre l'argent.
D'accord. Okay.
Donc là, il faut faire ça. Okay. Mettez bien de côté tous les numéros de téléphone, les adresses mail, les IBAN que vous avez utilisés pour faire les transferts. Ça pourrait être utile aux enquêteurs de la police quand vous allez faire la transmission du dépôt de plainte. Moi, ce que je vous invite à faire également, c'est de nous contacter. Nous, on va vous aider gratuitement, avec grand plaisir. Notre service en général est payant, mais là, avec grand plaisir, on vous aide pour France Inter et pour RMI. Et ce qu'on fera, c'est qu'on vous aidera à essayer de retrouver l'identité de vos escrocs grâce au hacking.
On vous donnera les coordonnées hors antenne. Merci beaucoup, Bénédicte.
J'ai envie de pleurer toute la nuit, donc.
Et Bénédicte, pardon, mais ça peut arriver à tout le monde, ne vous sentez pas bête. Et
d'ailleurs, ouais, en fait, ce que j'aimerais juste pour finir, c'est justement dire aux gens qu'on se sent très stupide après. Vous avez parlé de la dame et l'histoire avec Brad Pitt, et j'en ai parlé hier soir, et c'est vrai que je me suis moi-même moquée de cette histoire, mais on se sent très stupide.
Mais il ne faut pas se moquer ni d'Anne qui s'est fait escroquer par un faux Brad Pitt, ni vous, et ça peut nous arriver à nous tous, même les experts en cybersécurité autour de la table. Et nous aurons là dans quelques instants une psychologue spécialiste justement de cette cyber-malveillance et qui va nous expliquer qu'il n'y a pas à se sentir bête, stupide. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte de nous avoir appelé, mais restez quand même parce que nous avons Lionel Mauguin avec nous. Bonjour Lionel Mauguin.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Que faire quand on a été arnaqué comme ça par ce cyber-attaquant? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à 60 millions de consommateurs?
Bah, comme ça a été dit, il faut conserver les preuves, le numéro de téléphone, tous les messages, les mails reçus, les ordres de virement, enfin tout ça. Et il faut en effet déposer plainte pour escroquerie et en parallèle demander à la banque de rembourser les paiements ou les virements frauduleux. Parce que, et c'est ça qu'il faut dire, la banque... Et nous, on a des mails depuis maintenant 4-5 ans de gens qui ont perdu des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros parce que la banque refuse de rembourser alors que le code monétaire et financier est très clair. C'est l'article L133-18 qui dit que la banque doit rembourser sans délai, sauf si elle considère que vous avez fait preuve d'une négligence grave.
Mais là, par exemple, en prenant l'exemple de Bénédicte, la banque peut-elle arguer du fait qu'elle a été négligente, gravement négligente ?
Oui, oui, la plupart des banques essayent d'arguer cet argument parce que c'est des sommes tellement considérables qu'il faut rembourser que la banque essaye. Et c'est justement sur l'interprétation de cette notion de négligence grave que le juge est régulièrement amené à se prononcer, puisque ça va souvent en justice, ces affaires-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs décisions récentes vont dans le sens des consommateurs, d'un remboursement de la banque. Mmh. Je vais vous citer un arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation, sur lequel d'ailleurs la Cour de cassation a fait un communiqué de presse pour montrer que c'était un arrêt important. Il a donné raison à une victime d'une arnaque face à la BNP Paribas qui refusait de rembourser les 54 000 euros dérobés et qui dit clairement que le client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller bancaire ne peut se voir reprocher par sa banque d'avoir commis une négligence grave. Donc, il a donc le droit d'être remboursé par sa banque des virements frauduleux. Donc ça, c'est les deux éléments sur lesquels la victime doit s'appuyer, c'est-à-dire l'article que j'ai cité du Code monétaire et financier et cette jurisprudence de la Cour de cassation.
Bénédicte, vous avez donc la jurisprudence de la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire de votre côté. Olivier Blasi, sur le témoignage très éclairant qui parle à tout le monde de Bénédicte.
On voit deux choses. On voit déjà le déroulé classique d'une attaque qui va commencer, comme Marwan l'avait dit, par un petit SMS juste. On a essayé de vous livrer un colis, ça marche pas, pour collecter des premières informations. Et la deuxième phase d'exploitation qui est plus longue avec un faux conseiller bancaire. Après, dans ce que Bénédicte a dit, il y a quand même beaucoup de choses où elle a bien fait les choses. C'est-à-dire, elle était méfiante, elle a demandé de recevoir un mail pour vérifier que c'était la bonne personne. Alors, le mail, c'est déjà une très bonne chose. Généralement, c'est mieux de demander de recevoir sur l'application de la banque parce que là, le faux conseiller a rarement accès. Ou même d'essayer de rappeler la banque directement. Mais enfin, elle a fait beaucoup de choses qui sont des étapes dans la bonne direction. Et après, elle a aussi eu le bon réflexe, quand ça a coupé, de se dire ça a été coupé, c'est pas normal, et ensuite d'appeler la banque, de porter plainte. Et comme ça a été dit, il faut surtout pas en avoir honte et se dire qu'on a fait une bêtise. Enfin, ça arrive à tout le monde. Il y a des dizaines d'arnaques tous les jours, plein de gens qui se font avoir parce que on est dans une situation de stress et c'est normal et il faut essayer de dédramatiser les choses. Et c'est pour ça, ça fait du bien d'avoir des émissions comme ça pour en parler, pour comprendre qu'en fait, on n'est pas seul et c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et il faut juste savoir réagir, essayer de minimiser la casse ou de réagir rapidement après.
Tiens, juste avant de recevoir la psychologue Nathalie Granier, comment les attaquants, les cyberattaquants font-ils pour... Moi, j'ai reçu des coups de fil de ma banque en Midi-Pyrénées, avec le nom de la banque Midi-Pyrénées. moi, j'ai cru que c'était mon banquier, mais ce n'était pas le cas. Comment arrive-t-il à... Parce que là, du coup, on baisse la garde. Quand on voit le numéro du Crédit Mutuel, de la BNP, de LCL, on se dit, c'est mon conseiller bancaire.
Alors, c'est ce qu'on appelle du spoofing.
Donc c'est quoi ?
Du spoofing, donc c'est faire croire qu'on a un numéro alors qu'on ne l'a pas. Ça demande un peu de compétences techniques, mais ce n'est pas très compliqué. Et donc, si en fait on est sûr que la victime dépend de telle agence, si faire ça, ce petit truc en plus, ça va tout de suite créer un climat de confiance.
Moi j'ai failli baisser la garde.
Ah oui, mais c'est exactement comme les faux liens qui font semblant de reprendre une URL officielle, donc une adresse web officielle, ça fait baisser la garde. Et c'est pour ça que, en fait, dans ces situations d'urgence, le réflexe à avoir, mais qui est ultra compliqué à avoir, c'est de se dire désolé, j'ai pas confiance, je raccroche et je vous rappelle tout de suite pour que nous élancions la conversation. Et c'est l'équivalent d'aller sur le site web.
Tout à fait, la technique dont parlait Olivier à l'instant s'appelle le typo-squatting, donc c'est l'usurpation d'un caractère dans un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est l'URL d'un site internet. Lorsqu'on va par exemple mettre facebook.com et qu'on va remplacer un O par un 0, ça s'appelle du typo-squatting. Et grâce à cette méthode-là, plus le spoofing dont nous a parlé Olivier, on rajoute des éléments à la panel du crédible de notre attaque.
Et ça rend encore plus crédible l'attaque.
Exactement, ça rend l'attaque encore plus crédible.
Et nous accueillons Nathalie Granier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, analyste en renseignement sur les cybermenaces. Vous travaillez notamment sur le profilage des cyberattaquants. Donc même en étant informé, difficile de ne pas tomber dans le panneau. Pourquoi les arnaques sont-elles si efficaces, Nathalie Granier ? Sur quel mécanisme psychologique fonctionnent-elles ?
Alors, effectivement, tout le monde peut tomber dans le panneau. J'ai entendu quelques points là-dessus. Je me sens bête, et notamment le témoignage de Bénédicte, et je voudrais bien y revenir dessus.
Oui, bien sûr.
Pour rassurer cette personne et dire qu'effectivement, tout le monde peut tomber dans le panneau, comme vous dites, et moi y compris. Et pourtant, je travaille sur la manipulation depuis des années. En fait, les éléments qui vont intervenir, ce sont des biais cognitifs. Donc, c'est un terme qu'on entend souvent. Ce sont des distorsions dans le traitement d'une information. Il y a des biais universels. Alors, il y a 300 biais. Je pense que vous allez couper le micro si je commence à vous les énoncer tous. Donc, je ne vais peut-être pas vous les annoncer tous. Mais en revanche, il y en a certains qui sont plus présents que d'autres. Et notamment, ce sont les 6 principes de persuasion qu'on retrouve chez Cialdini, si le sujet vous intéresse en termes de manipulation. Je vous invite à commencer par ce livre-là. Donc, les biais les plus qu'on entend le plus, qu'on voit le plus aujourd'hui, et vous les avez cités, je pense, parce que j'ai pu entendre une partie de l'émission, c'est le biais d'autorité, c'est le biais de rareté, c'est le biais d'urgence, c'est la preuve sociale, la sympathie et la réciprocité. Ce sont les 6 éléments que l'on retrouve chez Cialdini. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des biais qui sont exploités C'est un réflexe darwinien, c'est un réflexe de survie. Notre cerveau, en fait, il réagit d'abord à l'émotion et ensuite à la logique. Donc, c'est comme on dit, notre premier clignement de yeux, il est instinctif. Ensuite, on réfléchit. Et donc, face à une menace, c'est pareil. En fait, on va cliquer immédiatement, ça va déclencher une réponse immédiate, et c'est ce que crée l'arnaqueur. Et ensuite, ça va court-circuiter notre cortex préfrontal. Et c'est ce qui se passe. Il y a un effet de sidération, il y a un choc émotionnel dans un premier temps qui peut être lié à la peur, à l'urgence, et qui va geler le cerveau en quelques secondes. Et ce blanc, il va suffire pour cliquer sans forcément réfléchir. Alors donc à cela va s'ajouter notre biais.
Alors vous citiez le livre de Robert Cialdini qui s'appelle « Influence et manipulation » qui est disponible en poche. Donc vous parliez des émotions sur lesquelles s'appuient les cyberattaquants, et il y a la peur évidemment. L'urgence, la peur crée des pressions qui empêchent la victime de prendre le temps de réfléchir, Nathalie Granier.
Absolument. Ils vont jouer sur votre compte sera bloqué dans 24 heures ou une offre qui va expirer. Et en plus de ça, ils vont combiner des biais. Ça s'appelle du stacking bias. C'est un empilement de biais. Et cette combinaison de plusieurs biais en même temps va faire qu'on va multiplier par 3, voire par 5, la probabilité de succès de l'attaque. Donc souvent, vous avez le biais d'urgence et le biais de peur qui sont liés.
Et puis il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire baisser notre vigilance. Il y a l'inattention, la fatigue.
Il y a les moments de la vulnérabilité. Ça peut être le dimanche matin, au réveil, à la fin de mois, quand il y a un stress financier pendant les vacances. Parce qu'à Noël, vous avez acheté des colis et que forcément votre SMS, comme quoi vous avez un colis dans votre boîte qui ne passe pas, peut sembler aujourd'hui ridicule, mais il est logique. Donc ça fonctionne. Il y a la charge cognitive, je crois que vous l'avez évoqué. On est passé aujourd'hui dans l'art de l'éparpillement. On est dans l'infobésité numérique aujourd'hui, qui va faire qu'on est dans un mode multitâche. Il y a seulement 2,5% des personnes qui sont en capacité réellement de multitâcher. Et Nathalie... Aujourd'hui, on n'est pas capable de multitâcher.
Et Nathalie Granier, toutes ces arnaques numériques peuvent laisser des traces psychologiques avec un impact sur la santé mentale et l'estime de soi.
Absolument, il va y avoir différents impacts, des impacts psychologiques, des impacts sociologiques et des impacts physiques qu'on a tendance à oublier. Et psychologique, je pense que c'est ce qu'a dit je crois que c'est Bénédicte, si je me souviens bien de son prénom, où il y a d'abord une sidération, ensuite il y a une colère, une anxiété, un épuisement et vient la honte. Ce sont des émotions qui sont vraiment, il faut insister, c'est normal. Tout le monde ressent ça. Parce que l'attaquant, il va atteindre l'ego, il va atteindre j'aurais dû le savoir, on a un peu honte, etc. Et on va s'isoler, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter cet isolement, cette dépression, cette crainte du regard des autres, parce que ça va nous empêcher de le déclarer, cette arnaque. Et ça peut aider d'autres personnes. Et puis physiquement, il y a aussi des impacts qu'on a tendance à oublier, c'est les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, des troubles digestifs, des comportements aussi antisociaux, on va s'isoler, etc. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Donc, il va falloir accompagner la victime.
Marwan Ouarab.
Comme le disait Bénédicte, c'est parfois des impacts psychologiques qui sont, complètement ravageurs dans la vie des victimes. Je pense notamment aux victimes, encore une fois, d'arnaques sentimentales qui, eux, sont sous emprise carrément de leur escroc, et qui vont avoir des escrocs qui vont avoir pour but de les couper de leur famille et de leurs proches. Donc, via la manipulation et l'overprésence, donc la surprésence qu'ils exercent sur eux, bah, ils vont pouvoir les éloigner de tout, et lorsque la victime va réaliser qu'elle a tout perdu, bah, c'est en général là qu'elle commence à avoir des idées noires et qu'elle réalise qu'elle a vraiment tout perdu. C'est le peu de le dire.
L'avantage que vous avez aujourd'hui, Marwan Ouarab, aujourd'hui vous êtes un hacker éthique, vous aidez à la recherche des cyber-attaquants, des cyber-escrocs, c'est que vous connaissez la psychologie des victimes. Vous avez été un escroc il y a quelques années.
Tout à fait. Et il y a notamment quelque chose que je remarque très régulièrement chez des victimes d'escroquerie, c'est que c'est des gens qui ont souvent subi des drames de vie, que ce soit des drames physiques, donc liés à la maladie ou autre, ou des drames émotionnels, des séparations, des divorces, des décès. Et clairement, les victimes que j'aide, ou du moins que j'ai eu la chance d'aider, c'est tout le temps des gens qui ont une appétence vers la gentillesse ou l'aide à autrui. C'est vraiment des gens qui sont extravertis, qui, pas forcément extravertis, mais qui pensent vraiment aux autres.
Olivier Blasi ?
Oui, non, enfin, c'est effectivement, c'est dans les caractéristiques classiques des victimes, ça va être des gens qui vont être ouverts, qui vont avoir envie de faire confiance aux autres, envie d'aider les autres. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, ils se prennent un contre-fouet qui est vraiment violent, parce qu'il y a un sentiment de trahison et un sentiment de honte. Et autant la trahison, effectivement, enfin, l'attaquant a trahi leur confiance, mais il n'y a pas de honte à avoir, au contraire. On a exploité le fait qu'ils étaient gentils et il n'y a pas aucune honte à avoir sur le fait d'être gentil.
Tu sais, Alice, ce que je dis souvent aux victimes, c'est là, ce qui vient de vous arriver, c'est comme si vous vous étiez pris un coup de poing au visage en pleine rue par un malade. C'est un petit peu pareil, sauf que ça s'est passé sur Internet. Et je ne pense pas que vous vous en seriez voulu à vous-même dans la rue si un malade vous avait mis un coup de poing au visage.
Alors, on comprend mieux les mécanismes psychologiques sur lesquels jouent les cyber-escrocs qui ont piégé Anne. Anne qui s'est fait piéger par un faux braque Pitt et qui a été escroquée de 830 000 euros, parce qu'on s'est beaucoup moqué d'elle, énormément, sur les réseaux sociaux, les humoristes, on s'en est pris à elle de façon très violente. Et en fait, quand Nathalie Granier, quand vous expliquez les mécanismes psychologiques sur lesquels les cyber-attaquants agissent, on se dit, bon, bah, on a beaucoup plus d'empathie pour Anne, que vous avez aidé. Hein, vous l'avez aidé à retrouver ses
escrocs, et qui était finalement au Nigeria, à Kwale. Et oui, tout à fait. En fait, c'est des situations dans lesquelles sont mises ces victimes-là, dans lesquelles il y a toute une pièce de théâtre qui est créée autour d'elles. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on entend le produit final, victime du faux Brad Pitt, 830 000 euros, là, ça nous fait tiquer. Mais lorsqu'on zoome un petit peu plus sur l'affaire, en fait, elle a été contactée par la fausse maman de Brad Pitt, qui a gagné sa confiance pendant plusieurs mois, avant de lui introduire l'agent de Brad Pitt et Brad Pitt. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine dans lequel Anne, malheureusement, est tombée parce qu'elle découvrait les réseaux sociaux et que l'enchaînement de circonstances et que les planètes, elles étaient plutôt bien alignées à ce moment-là pour qu'elle puisse se faire avoir. Elle sortait de maladie. Il y a vraiment eu tout un alignement d'événements qui a fait qu'elle a été bonne victime à ce moment-là.
Olivier Blasi ?
Non, mais enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment cet aspect dramatique où, pour exploiter les victimes, c'est une succession de choses qui se passent. Et en fait, quand on donne la version résumée, ça a l'air complètement farfelu, mais en fait, avec tout le scénario construit, c'est plus que crédible. C'est logique que la victime tombe dans le piège, parce que le piège était construit pour elle.
Merci beaucoup, Lionel Mauguin, de 60 millions de consommateurs. Nathalie Granier, restez encore un peu avec nous. Nous allons accueillir Isabelle, qui a reçu des mails de la police qui l'accuse de choses absolument horribles. Et on est nombreux à avoir reçu ce genre de mails ces derniers mois. On écoute Wet Leg, qui interprète Davinia McCall, 10h48 sur France Inter.
Sipping on red beans.
Wet Leg, interprété Davina McCall.
Ali Rebéi. Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, comment agir face aux arnaques numériques, hameçonnages en tout genre, arnaques aux faux conseillers bancaires et j'en passe, avec le professeur en cyberattaque à l'École Polytechnique Olivier Blasi et le hacker éthique qui fut escroc du web, Marwan Ouarab, et tout ça c'est du passé. Et également avec nous la psychologue Nathalie Granier. Et nous accueillons Isabelle. Bonjour Isabelle, bienvenue.
Bonjour Ali, merci beaucoup pour votre émission, toujours passionnante.
Merci. Quel est votre témoignage ?
Alors, mon témoignage date d'il y a plusieurs années, et donc à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de toutes ces arnaques. Donc j'étais un site, je crois que j'étais déjà retraitée, et un jour je reçois un mail de la police avec un logo, avec une tête de lion, là, je ne sais pas, qui m'accusait d'actes pédophiles, me disait que j'étais membre d'un réseau, qu'il y avait une enquête, que je devais donc cliquer sur un lien pour pouvoir être mise en relation avec les enquêteurs, me menacer d'emprisonnement. Alors évidemment, on panique, et maintenant j'ai compris, avec ce qu'a dit votre psychologue, que c'était ce fameux biais d'autorité,
bien sûr,
et aussi de honte sociale, enfin quelque chose comme ça.
Alors je précise, panique, parce que vous n'avez rien fait. Vous avez peut-être paniqué en vous disant « Oh là là, c'est une erreur judiciaire ».
Ah oui, c'est pas parce qu'elle a paniqué que c'est une pédophile,
oui,
bien
voilà,
sûr.
C'est ça.
Bien sûr, mais dans notre métier, on peut avoir parfois des accusations voilà, qui sont indulgentes. Voilà. Et donc, j'imprime le mail, parce que j'aime bien lire à tête reposée. Là, je vois le nom du commissaire à la fin, donc je cherche le nom de ce commissaire, je vérifie, il existait vraiment.
Ah oui.
Oui, il y avait sa photo, donc un numéro de commissariat que j'appelle. Et donc là, ce commissariat à Paris me dit « Ah ben oui, c'est une arnaque, le loco n'est pas tout à fait bon, il y a une petite différence dans les formes, bon, ben, c'est impossible à voir pour nous ». Voilà. Bon, ben donc ça s'est arrêté là, mais c'est vrai que sur le moment, on a le cœur qui bat vite, on est quand même mal.
Mais Isabelle, je vous rassure, parce qu'il y a énormément en ce moment de courriels de ce type-là envoyés et qui indiquent que voilà, vous êtes convoqué par un tribunal pour des actes de pédocriminalité. Nathalie Granier, sur quoi repose là, sur quel mécanisme ? Parce que Isabelle, évidemment, n'a pas commis d'actes pédocriminels, mais elle a paniqué.
Normal. En fait, là, il y a plusieurs éléments. Je vous ai parlé tout à l'heure d'empilement de biais. On est pile poil, c'est l'exemple parfait, malheureusement, pour vous. Il y a effectivement le biais d'autorité, on l'a dit. Un message qui semble venir d'une institution reconnue ou qu'on connaît potentiellement la source, ça joue. Il y a ce biais aussi de confiance et évidemment la peur. On l'a cité déjà tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Il y a déjà ces trois éléments-là. Ensuite, il y a des biais qui vont être plus spécifiques, qui vont toucher plus spécifiquement les femmes. Parce qu'elles ont plus d'empathie, donc on est sur des biais d'empathie, sur des biais d'engagement, des biais de confiance. Ça, c'est vraiment ce que l'on retrouve chez les femmes, contrairement aux hommes qui vont être plus sur du gain, sur de la compétition, etc. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, je crois que vous m'avez dit, enfin j'ai cru comprendre dans l'interview que c'était une personne retraitée. Là aussi, l'âge va jouer aussi, il va y avoir des biais plus particuliers. On est sur des profils où le biais de confiance, les biais interpersonnels, c'est les interactions humaines et les biais de cohérence qui vont jouer sur ce type de profil. Et tout à l'heure aussi, vous avez parlé de biais en fonction des personnalités, il y a des traits de personnalité. Si je me réfère au modèle Océan ou au Big Five, vous avez des traits de personnalité, de conscience, d'extraversion, agréabilité. Eh bien là encore, il y a des éléments, des traits qui sont peut-être plus prégnants chez cette personne sur lesquels ont joué les attaquants.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir rappelé. Alors on arrive au terme de cette émission. Pouvez-vous, Olivier Blasi, Marwan Ouarab, partager quelques conseils fondamentaux, pratiques et réflexes de survie face à ces cyberattaques, Olivier Blasi ?
D'accord, bah alors le premier, c'est de prendre son temps, enfin de se poser 5 minutes pour réfléchir et en fait de casser le scénario qui est en face, juste en disant j'ai besoin de réfléchir. Si possible, essayer de passer par un second canal, donc c'est-à-dire je raccroche, je rappelle ma banque, la vraie banque avec un numéro qu'on connaît, passer par l'application de sa banque, ou là ce que Isabelle a fait, appeler le commissariat avec le vrai numéro, pas répondre au mail. On peut espérer que dans quelques mois, il y aura le filtre anti-arnaque du gouvernement qui sera déployé, qui sera un message d'alerte pour dire ce site a été répertorié comme un site dangereux, donc ce qui elle fera un niveau supplémentaire. Mais en fait, la chose principale à faire, c'est se poser et réfléchir et casser le scénario de la personne en face et donc casser son timing.
Mais on va être de plus en plus démunis face au développement fantastique de l'intelligence artificielle qui va comment dire, aggraver déjà des choses existantes.
Oui. Et je ne suis pas forcément très optimiste à ce niveau-là, mais c'est pour ça qu'il faut au moins passer par un autre canal. Et ce côté casser en fait, le scénario d'attaque en les forçant à changer le lieu de la communication va contrer énormément d'attaques.
Marwan Ouarab.
Beaucoup plus synthétiquement, lorsqu'on vous fait une demande de paiement sur Internet ou que vous devez payer, très simplement, toujours revenir au conseil d'Olivier de se dire « Attends, je vais prendre une minute pour vérifier et regarder un petit peu sur quoi je clique ou qu'est-ce que je suis en train de payer ou sur quoi je rentre mes informations personnelles. » Parce que forcément, en rentrant nos informations personnelles n'importe où, on peut facilement donner accès à n'importe qui à ces informations-là.
Moi, j'avais eu le réflexe d'appeler ma vraie banque à Toulouse. Et effectivement, j'ai eu la confirmation que la personne qui essayait de me joindre en vain était un faux conseiller bancaire de cette banque. Oui, Marwan Ouarab.
Non, j'allais simplement dire que c'est la preuve qu'Olivier donne des bons conseils.
Nous allons recevoir, pour terminer, Marie. Bonjour, Marie.
Bonjour.
Vous appelez d'où, Marie ?
J'appelle de la Manche, pas très loin du Mont-Saint-Michel.
Ah, quelle chance. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Alors moi, c'était il y a 3 ans, je me suis fait avoir par une annonce de job en télétravail. Mmh. Et assez rapidement, en fait, j'ai été tutorée par une personne sur WhatsApp.
C'était de la validation de tâches ?
Comment ? Oui, c'est ça.
Je vous laisse expliquer, c'est incroyable.
Oui, c'est ça, effectivement, on devait mettre des avis, mais via une application sur de l'outillage. Et puis assez rapidement, pour débloquer des commissions, en fait, il faut qu'on avance des frais. Au début, c'est des sommes dérisoires, mais au final, j'ai laissé 2000 euros.
Ah oui, quand même.
Et tout ça, effectivement, en bitcoin, etc. Et tout ce que vous avez dit, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, on nous presse vraiment pour qu'on puisse débloquer en nous faisant miroiter ce gain d'argent, finalement. Et puis donc, quand je me suis rendu compte de l'arnaque, il était un peu tard. Et j'ai contacté ma banque, qui m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire puisque j'avais autorisé les paiements. Vous savez, il y a le code pour autoriser les paiements, les virements, etc.
Certaines banques passent par un moyen d'authentification de paiement qui est un code qu'ils envoient sur le SMS des clients pour pouvoir valider un paiement et confirmer que c'est bien le client qui est à l'origine du paiement.
Exactement.
Et donc les escrocs demandent à la victime de leur envoyer à eux le code à l'oral. Voilà, je vous laisse poursuivre, pardon.
Alors moi, je n'ai pas envoyé le code, mais j'ai bien validé les paiements. Donc la banque m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Je ne sais plus quel service j'ai contacté, si c'était Thésée ou Pharos, mais qui m'a dit qu'à l'époque, je ne pouvais rien faire contre ça. J'ai déposé plainte en gendarmerie qui s'est un peu moqué de moi. Et vous voyez, ça fait 3 ans, je n'ai toujours pas de nouvelles de cette plainte.
Merci beaucoup Marie pour votre témoignage. Je retiens le conseil d'Olivier Blasi, prendre son temps, prendre du recul, vérifier. Marwan Ouarab, hein, c'est important.
C'est très important. Et donc là, ce dont tu as été victime, Marie, c'est une arnaque qui cible uniquement, exclusivement, les demandeurs d'emploi. Donc il faut faire très attention.
Et Amel, pour terminer, nous demande si c'est risqué de cliquer sur les liens de désabonnement de mail.
Oui, toujours. Vraiment toujours. Il faut éviter de le faire, à part quand c'est une adresse mail qui est officielle.
Merci Marwan Ouarab, je conseille votre livre Hacker, publié chez First. Merci Olivier Blasi et Nathalie Granier. Vous pouvez podcaster cette émission demain. L'invité de Grand Bien Vous Fasse Weekend sera le physicien, l'astrophysicien Christophe Galfard pour célébrer les mystères des sciences de la vie et de l'univers.